Frédéric Nietzsche, Humain, trop humain, tome 2, Opinions et sentences mêlées. 325. Opinion. La plupart des gens ne sont rien et ne comptent pour rien avant d'avoir revêtu le manteau des convictions générales et des opinions publiques. Conformément à la philosophie des tailleurs, ce sont les habits qui font les gens. Mais pour les hommes d'exception, il faut dire « celui qui se vêt, fait le vêtement ». Là, les opinions cessent d'être publiques et deviennent autre chose que des masques, des parures et des travestissements. 326. Deux espèces de sobriété. Pour ne pas confondre la sobriété provoquée par l'épuisement d'esprit avec la sobriété de la tempérance, il faut observer que la première est louche d'allure, tandis que la seconde est pleine de gaieté. 327. Falsification de la joie. Il ne faut pas appeler bonne une chose, fût-ce même un jour de plus qu'elle ne nous paraît ainsi. Mais il ne faut pas non plus que ce soit un jour plus tôt. C'est la seule façon de se conserver une joie véritable. Autrement, notre joie serait trop facilement fade au goût et peut-être trop avancée et passerait auprès de beaucoup de gens pour de la nourriture falsifiée. 328. Le bouc de vertu. Lorsque quelqu'un fait ce qu'il sait faire de mieux, ceux qui lui veulent du bien, mais qui ne sont pas à la hauteur de son acte, se mettent vite à chercher un bouc pour le sacrifier, croyant que c'est le bouc émissaire. Sündenbock, bouc de péché. Alors que c'est le bouc de vertu. 329. Souveraineté. Vénérer aussi les choses mauvaises et les reconnaître lorsqu'elles vous plaisent, ignorer totalement comment on peut avoir honte de ce qui vous plaît, c'est le signe de la souveraineté en grand et en petit. 330. Celui qui agit sur ses semblables est un fantôme et non pas une réalité. L'homme éminent apprend peu à peu qu'en tant qu'il agit, il est un fantôme dans le cerveau des autres, et il en arrive peut-être à la subtile torture de l'âme de se demander s'il ne faut pas conserver le fantôme de soi pour le bien de ses semblables. 331. Prendre et donner. Lorsque l'on a pris la moindre des choses à quelqu'un, ou lorsqu'on l'a prélevé sur lui, il devient aveugle et il ne voit pas qu'on lui a donné des choses infiniment plus grandes, et même la plus grande chose. 332. Le bon champ. Tout refus et toute négation témoignent d'un manque de fécondité. Au fond, si nous étions un bon champ de labour, nous ne laisserions rien périr sans l'utiliser et nous verrions en toute chose, dans les événements et dans les hommes, de l'utile fumier, de la pluie et du soleil. 333. Les relations, une jouissance. Si l'esprit de renoncement pousse quelqu'un à rechercher la solitude avec intention, il peut, lorsqu'il les goûte rarement, transformer ses relations avec les hommes en un mets délicat. 334. Savoir souffrir publiquement. Il faut afficher son malheur, gémir de temps en temps, de façon à ce que tout le monde l'entende, s'impatienter d'une façon visible, car si on laissait les autres s'apercevoir combien l'on est tranquille et heureux au fond de soi-même, malgré les douleurs et les privations, combien on les rendrait envieux et méchants. Mais il faut que nous veillions à ne pas rendre nos semblables plus mauvais. De plus, s'ils nous savaient heureux, ils nous chargeraient de lourdes contributions, de sorte que notre souffrance publique est certainement aussi pour nous un avantage privé. 335. Chaleur sur les sommets. Sur les hauteurs, il fait plus chaud que l'on imagine généralement dans la vallée, surtout en hiver. Le penseur sait tout ce que ce symbole veut dire. 336. Vouloir le bien, savoir le beau. Il ne suffit pas d'exercer le bien. Il faut aussi l'avoir voulu et, selon le mot du poète, recevoir la divinité dans son vouloir. Mais il ne faut pas vouloir le beau, il faut le pouvoir. Avec innocence et aveuglement, sans que Psyché y mette de sa curiosité. Que celui qui allume sa lanterne pour trouver des hommes parfaits prenne garde à ce signe distinctif. Les hommes parfaits sont ceux qui agissent toujours à cause du bien et aboutissent toujours au beau sans y songer. Car, par incapacité et défaut d'une belle âme, beaucoup de personnes bonnes et nobles, malgré leur bonne volonté et leurs bonnes œuvres, restent d'un aspect fâcheux et sont laides à regarder. Elles repoussent et nuisent même à la vertu par la hideuse défroque que leur mauvais goût fait endosser à celle-ci. 337. Danger de ceux qui renoncent. Il faut se garder de fonder sa vie sur une base de convoitise trop étroite. Car lorsque l'on renonce aux joies que procure une situation, des honneurs, des fréquentations mondaines, les voluptés, le confort et les arts, il peut venir un jour où l'on s'apercevra qu'au lieu d'avoir la sagesse pour voisin, le renoncement vous a amené la satiété et le dégoût de vivre. 338. Dernière opinion sur les opinions. Ou bien l'on cache ses opinions, ou bien l'on se cache derrière elles. Celui qui agit autrement ne connaît pas la marche du monde ou fait partie de l'ordre de la sainte témérité. 339. Gaudegamus sigitur. Il faut que la joie contienne aussi des forces édifiantes et guérissantes pour la nature morale de l'homme. Comment se pourrait-il autrement que chaque fois que notre âme se repose sous les rayons du soleil de la joie, elle se promet involontairement d'être bonne, de devenir parfaite, et qu'elle est saisie d'une sorte de pressentiment de la perfection, semblable à un frisson de bonheur. 340. À quelqu'un qui a été loué. N'oublie pas qu'aussi longtemps qu'on te loue, tu n'es pas encore sur ton propre chemin, mais sur celui d'un autre. 341. Aimer le maître. Le maître est aimé de l'ouvrier autrement que du maître. 342. Trop beau et trop humain. La nature est trop belle pour toi, pauvre mortel. Il n'est pas rare que ce sentiment vous saisisse, mais parfois, en contemplant avec intensité tout ce qui est humain, sa plénitude et sa force entremêlées de douceur, j'ai eu le sentiment que je devrais dire en toute humilité « L'homme, lui aussi, est trop beau pour l'homme contemplatif. » Et je ne songeais pas seulement à l'homme moral, mais à tout l'homme. 343. Effets mobiliers et propriétés terriennes. Quand une fois la vie vous a traité en vraie spoliatrice et vous a pris tout ce qu'elle pouvait vous prendre de vos honneurs et de vos joies, vous enlevant vos amis, votre santé et votre avoir, on découvrira, peut-être après coup, lorsque la première frayeur sera passée, que l'on est plus riche qu'auparavant. Car maintenant, seulement, on sait ce qui vous appartient, au point que nulle main sacrilège ne peut y toucher. Et c'est ainsi que l'on sortira peut-être de tout ce pillage et de cette confusion, avec la noblesse d'un grand propriétaire terrien. 344. Involontaires figures idéales. Le sentiment le plus pénible qu'il y ait, c'est de découvrir que l'on est toujours pris pour quelque chose de supérieur à ce que l'on est, car on est toujours forcé de s'avouer quelque chose de chez toi est duperie et mensonge. Ta parole, ton expression, ton attitude, ton regard, ton action. Et ce quelque chose de trompeur est aussi nécessaire que l'est par ailleurs ta franchise. Mais il annule sans cesse l'effet et la valeur de celle-ci. 345. Idéaliste et menteur. Il ne faut pas se laisser tyranniser par la plus belle qualité que l'on puisse avoir, celle d'élever les choses dans l'idée. Car alors, il se pourrait bien qu'un jour, la vérité se séparera de nous avec cette dure parole. Menteur fieffé, qu'ai-je de commun avec toi? 346. Être mal compris. Lorsque l'on est mal compris en bloc, il est impossible de supprimer complètement un malentendu de détail. Il faut se rendre compte de cela pour ne pas user inutilement sa force à se défendre. 347. Le buveur d'eau parle. Continue donc à boire le vin qui t'a délecté durant toute ta vie. Que t'importe qu'il me faille être buveur d'eau? L'eau et le vin ne sont-ils pas des éléments paisibles et fraternels qui peuvent habiter ensemble sans se faire de reproches? 348. Du pays des anthropophages. Dans la solitude, le solitaire se ronge le cœur. Dans la multitude, c'est la foule qui le lui ronge. Choisis donc. 349. Le degré de congélation de la volonté. Elle vient enfin, l'heure qui t'enveloppe dans le nuage doré de l'absence de douleur, où l'âme jouit de sa propre lassitude, s'abandonnant avec joie à la lenteur de ses mouvements, et ressemblant dans sa patience au jeu des vagues qui, sur les bords d'un lac, par un jour tranquille de l'été, sous les reflets multicolores d'un ciel du couchant, bruissent tour à tour et se taisent, sans fin, sans but, sans satiété et sans désir, tranquille et prenant plaisir au flux et au reflux qui se rythment sur le souffle de la nature. Telle est la parole et la pensée de tous les malades. Mais lorsqu'ils parviennent à cette heure, après une courte jouissance, arrive l'ennui. Mais l'ennui est le vent de dégel pour la volonté congelée. Celle-ci se réveille et recommence à susciter un désir après l'autre. Désirer de nouveau, c'est le symptôme de la convalescence et de la guérison. 350. L'idéal renié. Il arrive exceptionnellement que quelqu'un ne puisse parvenir à son sommet qu'en reniant son idéal. Car c'est cet idéal qui, jusqu'à présent, le stimulait avec trop de violence, de sorte que, au milieu de sa route, il perdait chaque fois l'haleine et était obligé de s'arrêter. 351. Penchant perfide. C'est le signe d'un homme envieux, mais qui aspire à plus haut. Lorsque l'on voit quelqu'un attiré par l'idée que devant ce qui est parfait, il n'y a qu'un seul salut, l'amour. 352. Bonheur d'escalier. De même que chez certains hommes, le mot d'esprit ne marche pas d'un pas égal avec l'occasion de le placer, en sorte que l'occasion a déjà passé la porte quand le mot d'esprit est encore sur l'escalier, chez d'autres hommes, il y a une espèce de bonheur d'escalier qui court trop lentement pour être toujours aux côtés du temps au pied léger. La meilleure jouissance que procure à ces hommes un événement ou toute une période de la vie ne leur parvient que longtemps après, parfois seulement comme un faible parfum aromatisé qui évoque de la langueur et de la tristesse, comme si, à un moment ou à un autre, il avait été possible d'étancher sa soif dans cet élément, tandis que maintenant, il est trop tard. 353. Vert. Ce n'est pas un argument contre la maturité d'un esprit que d'y trouver quelques vers. 354. La position victorieuse. Une bonne attitude à cheval enlève le courage à l'adversaire, le cœur au spectateur. À quoi bon alors attaquer encore? Tiens-toi comme quelqu'un qui a vaincu. 355. Danger dans l'admiration. À trop admirer les vertus étrangères, on peut perdre le sens des siennes propres. Et ne les exerçant plus, les oublier complètement sans pouvoir les remplacer par les étrangères. 356. Utilité de la maladie. Celui qui est souvent malade, parce qu'il guérit souvent, prend non seulement un plus grand plaisir à la santé, mais possède encore un sens très aigu pour ce qui est sain ou morbide dans les œuvres et les actes, les siens et ceux des autres. Les écrivains maladifs, par exemple, et presque tous les grands écrivains sont malheureusement dans ce cas, possèdent généralement dans leurs œuvres un ton de santé beaucoup plus sûr et plus égal, parce qu'ils s'entendent bien mieux que ceux qui sont robustes de corps à la philosophie de la santé et de la guérison de l'âme. Ils connaissent les maîtres qui enseignent la santé. Le matin, le soleil, la forêt et les sources d'eau claire. 357. Infidélité, condition de la maîtrise. Cela ne sert de rien. Chaque maître n'a qu'un seul élève, et cet élève lui devient infidèle, car il est prédestiné à la maîtrise. 358. Jamais en vain. Tu ne grimperas jamais en vain dans les montagnes de la vérité. Soit qu'aujourd'hui déjà, tu parviennes à monter plus haut, soit que tu exerces tes forces pour pouvoir monter plus haut demain. 359. À travers les vitres dépolies. Ce que vous voyez du monde à travers cette fenêtre est-il donc si beau que vous ne voulez à aucun prix regarder à travers une autre fenêtre et que vous essayez même d'empêcher les autres d'en faire la tentative? 360. Indice de transformation violente. si l'on rêve de ceux qui sont morts ou oubliés depuis longtemps, c'est le signe qu'une grande transformation s'est opérée en vous et que le sol sur lequel on vit a été profondément fouillé. Alors, les morts ressuscitent et ce qui était ancien devient nouveau. 361. Médicaments de l'âme. Rester couché, sans bouger et penser peu, c'est là le remède le moins coûteux pour toutes les maladies de l'âme. Et lorsque l'on est de bonne volonté, son usage devient d'heure en heure plus agréable. 362. Classification des esprits. Tu te classes bien au-dessous de l'autre, car tu cherches à fixer l'exception, mais lui, la règle. 363. Le fataliste. Il faut que tu croies à la fatalité. La science peut y forcer. Ce qui naîtra alors de cette croyance, la lâcheté et la résignation, ou la grandeur et la loyauté, témoignera du terrain où cette semence fut jetée, mais non point de la semence elle-même, car d'elle, toutes choses peuvent sortir. 364. Raison de beaucoup d'humeur. Celui qui, dans la vie, préfère le beau à l'utile, finira comme l'enfant qui préfère les sucreries au pain, par se gâter l'estomac et par regarder le monde avec beaucoup d'humeur. 365. L'excès comme remède. On peut reprendre goût à ses propres talents en vénérant à l'excès, pour en jouir, les talents contraires. Employer l'excès comme remède, c'est là un des coups de maître dans l'art de vivre. 366. Veuille être toi-même. Les natures actives et couronnées de succès n'agissent pas selon l'axiome « connais-toi toi-même », mais comme s'ils voyaient se dessiner devant eux le commandement « veuille être toi-même et tu seras toi-même ». La destinée semble toujours leur avoir laissé le choix, tandis que les inactifs et les contemplatifs réfléchissent pour savoir comment ils ont fait pour choisir une fois le jour où ils sont entrés dans le monde. 367. Vivre, si possible, sans adhérents. On comprend seulement combien peu d'importance ont les adhérents lorsque l'on a cessé d'être l'adhérent de ses adhérents. 368. S'obscurcir. Il faut savoir s'obscurcir pour se débarrasser des nuées de mouches d'admirateurs trop importants. 369. Ennui. Il y a un ennui des esprits les plus subtils et les plus cultivés, pour qui ce que la terre produit de meilleur est devenu sans saveur. Habitués comme ils le sont à absorber une nourriture choisie et toujours plus choisie, et à se dégoûter d'une nourriture grossière, ils risquent de mourir de faim, car les choses parfaites sont en très petit nombre, et il leur arrive d'être inaccessibles, ou dur comme de la pierre, de sorte que de très bonnes dents ne peuvent plus les mordre. 370. Le danger dans l'admiration. L'admiration d'une qualité ou d'un art peut être si violente qu'elle nous empêche d'aspirer à la possession de ceux-ci. 371. Ce que l'on demande à l'art. L'un veut se réjouir de sa nature au moyen de l'art. L'autre veut, avec son aide, s'oublier momentanément et s'élever au-dessus de sa nature. Selon ces deux besoins, il y a une double espèce d'art et d'artiste. 372. Réfection. Celui qui nous abandonne ne nous offense peut-être pas nous-mêmes, mais certainement nos adhérents. 373. Après la mort. Il arrive, généralement, que nous trouvions incompréhensible l'absence d'un homme longtemps seulement après sa mort. Pour de très grands hommes, c'est parfois seulement après des dizaines d'années. Celui qui est franc devant lui-même se dit à l'occasion d'un décès qu'en somme il n'y a pas beaucoup à regretter et que l'homme qui prononce solennellement l'oraison funèbre est un hypocrite. Mais la disette finit par enseigner la raison d'être d'un individu et l'épitaphe véritable pour un mort, c'est un tardif soupir de regret. 374. Laisser dans le royaume des ombres. Il y a des choses qu'il faut laisser dans le royaume des sentiments à peine conscients, sans vouloir les délivrer de leur existence de fantôme. Autrement, lorsque ces choses seront devenues pensées et paroles, elles voudront s'imposer à nous comme des démons et demander cruellement notre sang. 375. Près de la mendicité. Il arrive à l'esprit le plus riche de perdre la clé du grenier où sommeillent ses trésors accumulés. Il ressemble alors au plus pauvre qui est forcé de mendier pour vivre. 376. Penser par enchaînement. À celui qui a beaucoup réfléchi, toute idée nouvelle, qu'il l'entende ou qu'il la lise, apparaît immédiatement sous forme de chaîne. 377. Compassion. Le fourreau doré de la compassion cache parfois le poignard de l'envie. 378. Qu'est-ce que le génie ? Aspirer à un but élevé et aux moyens d'y parvenir. 379. Vanité des combattants. Celui qui n'a pas l'espoir de triompher dans une lutte ou qui a succombé visiblement désire d'autant plus que l'on admire sa façon de combattre. 380. La vie philosophique est mal interprétée. Au moment où quelqu'un commence à prendre la philosophie au sérieux, tout le monde croit de lui le contraire. 381. Imitation. Par l'imitation, ce qu'il y a de plus mauvais prend du prestige, ce qui a de la valeur y perd, surtout en art. 382. Dernier enseignement de l'histoire. Hélas, que n'ai-je vécu alors? C'est ainsi que parlent les hommes insensés et folâtres. Au contraire, à chaque fragment d'histoire que l'on aura étudié sérieusement, fût-ce même la terre promise du passé, on finira par s'écrier « Non, je ne voudrais y revenir à aucun prix. L'esprit de cette époque pèserait sur moi avec une pression de 100 atmosphères. Je ne pourrais me réjouir de ce qu'elle a de beau et de bon, ni digérer ce qu'elle a de mauvais. Il est certain que la postérité jugera de même au sujet de notre époque. On dira qu'elle fut insupportable et que la vie ne méritait pas d'y être vécue. Et pourtant, chacun arrive à s'accommoder de son temps. C'est non seulement parce que l'esprit de son temps pèse sur lui, mais encore parce qu'il l'a en lui. L'esprit du temps se résiste à lui-même. Il se porte lui-même. 383. La générosité comme masque. Avec de la générosité dans l'attitude, on exaspère ses ennemis. Avec de l'envie manifestée, on se les concilie presque. Car l'envie compare, met en parité, elle est une façon d'humilité involontaire et plaintive. À cause de l'avantage indiqué, l'envie n'aurait-elle pas été prise comme masque par ceux qui n'étaient pas envieux? Peut-être. Ce qui est certain, c'est que la générosité est souvent utilisée comme masque de l'envie par des gens ambitieux qui préfèrent souffrir d'un préjudice pour exaspérer leurs ennemis que de laisser voir que, dans leur fort intérieur, ils considèrent ceux-ci comme leurs égaux. 384. Impardonnable. Tu lui as donné l'occasion de montrer de la fermeté de caractère, et il n'en a pas profité. C'est ce qu'il ne te pardonnera jamais. 385. Axiome parallèle. L'idée la plus sénile que l'on ait jamais eue au sujet de l'homme se trouve dans le célèbre axiome « Le moi est toujours haïssable ». L'idée la plus enfantine dans cet axiome, plus célèbre encore, « Aime ton prochain comme toi-même ». Dans le premier, l'expérience des hommes a cessé. Dans le second, elle n'a pas encore commencé. 386. L'oreille qui fait défaut. On appartient à la populace tant que l'on fait toujours retomber la faute sur les autres. On est sur le chemin de la vérité lorsque l'on ne rend responsable que soi-même. Mais le sage ne considère personne comme coupable, ni lui-même, ni les autres. Qui dit cela? Épictète, il y a 1800 ans. On l'a entendu, mais on l'a oublié. Non, on ne l'a pas entendu, et on ne l'a pas oublié. Il y a des choses que l'on n'oublie pas. Mais l'oreille faisait défaut pour entendre, l'oreille d'Épictète. Il se l'est donc dit lui-même à l'oreille? Parfaitement. La sagesse, c'est le murmure du solitaire sur la place tumultueuse. 387. Défaut de point de vue et non pas de l'œil. On est toujours de quelques pas trop près de soi-même et de quelques pas trop loin de son prochain. Voilà pourquoi l'on juge celui-ci trop en bloc, tandis que l'on se juge soi-même d'après des traits de détail, des faits insignifiants et passagers. 388. L'ignorance sous les armes. Combien nous traitons légèrement la question de savoir si quelqu'un sait une chose ou non, tandis qu'il se met peut-être déjà à suer sang et eau, rien qu'à la pensée que nous pourrions le croire ignorant de cette chose. Il y a même certains fous de choix qui se promènent toujours avec un carquois d'anathèmes et d'arrêts sans appel, prêts à foudroyer chacun de ceux qui donneraient à entendre qu'il y a certaines choses où leur jugement n'entre pas en ligne de compte. 389. À la buvette de l'expérience. Les personnes qui, par sobriété naturelle, laissent toujours leur verre à moitié plein, ne veulent pas avouer que chaque chose en ce monde a son égoutture et sa lie. 385. 390. Oiseau chanteur. Les partisans d'un grand homme ont l'habitude de s'aveugler pour mieux chanter ses louanges. 391. Pas à la hauteur. Le bien nous déplaît lorsque nous ne sommes pas à sa hauteur. 392. La règle comme mère et comme enfant. L'état qui engendre la règle est différent de celui que la règle engendre. 393. Comédie. Il nous arrive de récolter de la reconnaissance et des honneurs pour des œuvres et des actions que nous avons depuis longtemps laissées tomber, comme une peau dont on se débarrasse. Nous sommes alors facilement tentés de jouer les comédiens de notre propre passé et de jeter, encore une fois, sur nos épaules la vieille dépouille, et non seulement par vanité, mais encore par bienveillance à l'égard de nos admirateurs. 394. Faute que commettent les biographies. Il ne faut pas confondre le peu de force qui est nécessaire à pousser un canot dans un fleuve avec la force du fleuve qui le porte dès lors. Mais c'est le cas de presque tous les biographes. 395. Ne pas payer trop cher. On utilise généralement mal ce que l'on a payé trop cher, parce qu'il s'y attache un souvenir désagréable, et c'est ainsi que l'on a double désavantage. 396. Quelle est la philosophie dont une société a toujours besoin? Le pilier de l'ordre social repose sur cette base qu'il faut que chacun regarde avec sérénité ce qu'il est, ce qu'il fait et ce à quoi il aspire, sa santé ou sa maladie, sa pauvreté ou son aisance, son honneur ou son apparence chétive, et qu'il se dise « Je ne voudrais changer avec personne ». Que celui qui veut travailler à l'ordre social tâche toujours d'implanter au cœur des hommes cette philosophie sereine du refus de changer et de l'absence de jalousie. 397. Indice d'une âme noble. Ce n'est pas une âme noble celle qui est capable des plus hautes volées. C'est au contraire celle qui s'élève peu et qui s'abaisse peu, mais qui habite toujours un air libre et une lumière transparente. 398. Le sublime est celui qui le contemple. Le meilleur effet du sublime, c'est qu'il donne au contemplateur un œil qui grossit et arrondit. 399. Se contenter. Lorsque l'on a atteint la maturité de la raison, on ne s'aventure plus aux endroits où poussent les fleurs rares sous les broussailles les plus épineuses de la connaissance. Et l'on se contente des jardins, des prairies et des champs, considérant que la vie est trop courte pour les choses rares et extraordinaires. 400. Avantage dans la privation. Celui qui vit toujours dans la chaleur et la plénitude du cœur, et en quelque sorte dans l'atmosphère estivale de l'âme, ne peut se figurer ce ravissement épouvantable qui s'empare des natures hivernales quand elles sont exceptionnellement touchées par un rayon d'amour et le souffle tiède d'un jour ensoleillé de février. 401. Recette pour le martyr. Le poids de la vie est trop lourd pour toi? Augmente donc le fardeau de ta vie. Si celui qui souffre finit par avoir soif des eaux du Léthé et qu'il les cherche, il faut qu'il devienne héros pour être sûr de les trouver. 402. Le juge. Celui qui a vu l'idéal de quelqu'un devient pour celui-ci un juge impitoyable, en quelque sorte sa mauvaise conscience. 403. Utilité du grand renoncement. L'utilité du grand renoncement, c'est qu'il nous communique cette fierté vertueuse, au moyen de quoi il nous sera facile dès lors d'obtenir facilement de nous-mêmes beaucoup de petits renoncements. 404. Comment le devoir prend de l'éclat. Il y a un moyen pour changer en or, aux yeux de tous, son devoir d'airain. C'est de tenir toujours plus que l'on ne promet. 405. Prière aux hommes. Pardonnez-nous nos vertus. C'est ainsi qu'il faut prier vers les hommes. 406. Créateurs et jouisseurs. Tout jouisseur se figure que ce qui importe dans l'arbre, c'est le fruit, alors qu'en réalité, c'est la semence. Voilà la différence qu'il y a entre les créateurs et les jouisseurs. 407. La gloire de tous les grands. Qu'importe le génie, s'il ne sait pas communiquer à celui qui le contemple et le vénère, une telle liberté et une telle hauteur de sentiment qu'il n'a plus besoin du génie. Se rendre superflu, c'est là la gloire de tous les grands. 408. La course aux enfers. Moi aussi j'ai été aux enfers comme Ulysse, et j'y serai souvent encore. Et pour pouvoir parler à quelques morts, j'ai non seulement sacrifié des béliers, je n'ai pas non plus ménagé mon propre sang. Quatre couples d'hommes ne se sont pas refusés à moi qui sacrifiais. Épicure et Montaigne, Goethe et Spinoza, Platon et Rousseau, Pascal et Schopenhauer. C'est avec eux qu'il faut que je m'explique lorsque j'ai longtemps cheminé solitaire. C'est par eux que je veux me faire donner tort et raison. Et je les écouterai lorsque, devant moi, ils se donneront tort et raison les uns aux autres. Quoi que je dise, quoi que je décide, quoi que j'imagine pour moi et les autres, c'est sur ces 8 que je fixe mes yeux et je vois les leurs fixés sur moi. Que les vivants me pardonnent s'ils m'apparaissent parfois comme des ombres, tellement ils sont pâles et attristés, inquiets, et hélas, tellement avides de vivre. Tandis que ceux-là m'apparaissent alors si vivants, comme si, après être morts, ils ne pouvaient plus jamais devenir fatigués de la vie. Mais c'est l'éternelle vivacité qui importe. Que nous fait la vie éternelle? Et en général, la vie.